pro du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le Bistrot du Livre, une émission proposée par Cépage d'Encre en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour et meilleurs vœux.
Bonjour et meilleurs vœux de même.
Bonjour et bien sûr, Shiowasena Shinen. Autant dire bonne année en japonais. Car aujourd'hui, oui, on part en voyage pour démarrer 2016. Voyage au Japon, déjà c'est pas mal, mais pas que. Voyage dans un univers particulier. Je devrais dire des univers particuliers. Des mondes qui se touchent et qui coexistent. Un monde réel et un monde imaginaire. Un monde fantastique à portée de main. L'univers d'un écrivain extrêmement secret. On ne le voit guère, on ne l'entend presque jamais. Cela fait partie de son mythe. Et pourtant un écrivain qui vend des millions de livres à travers le monde et qui chez lui est une star. Un homme qui a trois passions dans la vie. Par ordre d'importance, les chats, les livres et la musique. Cette année encore, on parlait de lui pour le Nobel de littérature, et puis non. Non, parce que peut-être trop populaire ou trop étrange pour les jurés de l'Académie suédoise. Et pourtant cet homme, lorsqu'il vous prend la main au détour de l'un de ses romans, eh bien, il ne vous lâche plus. Et ses personnages trottent encore longtemps dans votre tête.
Son nom ? Haruki Murakami.
Murakami a une passion pour les chats, je vous le disais, normal. Je crois qu'il est lui-même un chat. Il a déjà eu plusieurs vies et il sait se faire adopter, mine de rien. Et après, si le courant passe, il s'installe chez vous, dans votre bibliothèque. Fils d'un enseignant de littérature japonaise, enfant unique, c'est d'abord un gamin solitaire qui passe sa vie dans les livres entouré de chats. Ses seuls compagnons de jeu. Né en 47, il voit la société traditionnelle japonaise basculer dans la modernité et le capitalisme forcené. Il y puisera une certaine nostalgie et se réfugiera dans la poésie et le théâtre avant que son destin bascule un soir dans un stade à l'occasion d'un match de baseball.
Ce jour-là, le lanceur, avec une force incroyable, a lancé la balle si fort qu'elle s'est envolée au-dessus des tribunes. Sa trajectoire m'a fascinée. C'est là que j'ai découvert le sens de l'écriture. Être une balle qui file dans le ciel, quitte la lumière du stade et s'enfonce dans la nuit, au-delà des tribunes, au-delà du monde réel. Écrire, ce doit être ça.
Et si t'as dit, si t'as fait, lui qui gagnait sa vie comme traducteur de grands auteurs américains ou anglais comme Fitzgerald ou Irving, Salinger ou Carver, se lance à corps perdu dans la fiction. On serait tenté de dire la science-fiction. Car avec Murakami, le fantastique n'est jamais loin, juste au coin de la rue. Prenez 1Q84, qu'il a vraiment fait connaître en France, une œuvre en trois volets, en hommage au 1984 de Orwell. Il suffit de descendre un escalier sur le bord d'un périphérique de Tokyo pour que tout bascule. Imaginez, vous êtes dans un taxi, vous êtes une femme, vous vous nommez Aomame, bloquée dans un embouteillage, vous êtes en retard à un rendez-vous capital et le chauffeur vous propose de descendre pour gagner du temps et de prendre cet escalier métallique juste à côté.
Le vent a forci, faites attention, dit le chauffeur. « Je serai prudente, » répondit Aomame. Et puis, poursuivit le chauffeur en regardant dans le rétroviseur, « J'aimerais que vous vous souveniez d'un point, c'est que les choses et l'apparence, c'est différent. » « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Le chauffeur répondit en pesant ses mots. « Eh bien, qu'en quelque sorte, vous allez accomplir des choses pas ordinaires, n'est-ce pas ?» comme de descendre en plein jour un escalier de secours depuis une voie express. Des gens normaux ne le feraient pour rien au monde, et encore moins une femme. Non, sans doute pas, dit Aomame. Une fois que vous aurez agi de la sorte, il n'est pas impossible qu'ensuite le paysage vous paraisse, comment dire, assez différent de celui de tous les jours. Moi aussi, j'ai eu ce type d'expérience. mais il ne faut pas se laisser abuser par les apparences. Il n'y a toujours qu'une réalité.
Et effectivement, l'héroïne va basculer dans un autre monde, juste un petit peu différent, un monde d'avant, avec par exemple les uniformes des policiers qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Un monde où la nuit, vous avez deux lunes qui coexistent dans le ciel, et vous voilà embarqué dans l'univers de Murakami. Vous allez me demander, mais pourquoi Aomame est-elle si pressée ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a rendez-vous avec la mort. Mais la mort, c'est elle qui la donne. Aomame est une tueuse. On pourrait dire une tueuse pour la bonne cause. Elle ne tue que les hommes qui battent ou torturent moralement leurs femmes dans l'intimité du cocon familial. Et bien sûr, elle sera pourchassée et croisera sur sa route Tengo, un prof de maths un peu allumé, apprenti romancier, obnubilé par une image qu'il n'aurait jamais dû voir.
Le premier souvenir de Tengo remontait au temps où il avait 1 an et demi. Il voyait sa mère, sans chemisier, sa combinaison blanche descendue au-dessous des épaules, et un homme, qui n'était pas son père, lui suçait les seins. Cette scène d'environ 10 secondes s'était gravée très nettement sur le mur de sa conscience. Il n'y avait rien avant, rien après. Cet unique souvenir émergeait au-dessus des eaux troubles, comme une flèche pointant au-dessus des rues envahie par les flots d'une gigantesque inondation. La scène, qui durait environ 10 secondes, lui revenait sans avertissement dans toute sa clarté, sans aucun présage et sans sursis non plus. L'image rendait souvent visite à Tengo quand il prenait le train, quand il traçait des chiffres sur le tableau, quand il mangeait, quand il parlait avec quelqu'un. Comme un rat de marée silencieux qui déferlait violemment sur lui, le laissant groggy après son passage. Le temps se figeait, il respirait mal, le cours du temps se figeait. Tout lui devenait étranger.
Du réel, des allers-retours dans le temps, des personnages un peu farfelus, mais tout à fait crédibles, attachants, et qui basculent, comme par mégarde, dans un autre univers. C'est là la magie de Murakami, et toujours sur fond de musique, sa troisième priorité dans la vie, je vous le disais, après les chats et les livres. Il a fait savoir qu'il a tenu un bar de jazz à Tokyo, une dizaine d'années, au nom qui ne doit rien au hasard. Peter Cat, un peu comme Peter Pan et surtout comme Peter le chat. Tiens, à propos de chat, portrait d'un des personnages les plus attachants de Murakami. C'est dans son roman un vrai bijou, Kafka sur le rivage. Il s'appelle Nakata. C'est un homme qui, au regard de ses voisins, n'a pas tout à fait toute sa tête suite à un événement inexpliqué dans sa jeunesse. Et là, on pense à Hiroshima ou Nagasaki. Pas toute sa tête, mais une faculté. Nakata parle chat. Oui, la langue des chats. Il est même payé par ses voisins pour retrouver leurs chats qui ont disparu. Il suffit simplement qu'il interroge les vieux matous errants dans son quartier.
Nakata ignorait pourquoi, mais la communication passait plus ou moins bien selon les races de chats. Il était particulièrement difficile d'être sur la même longueur d'onde que les chats bruns tigrés. Avec les chats noirs, cela se passait plutôt bien. C'est avec les siamois qu'il avait les conversations les plus fluides. Mais malheureusement, l'occasion ne se présentait pas souvent quand on rencontrait peu de siamois errant dans les rues. Et pour une raison qui échappait à Nakata, la plupart des chats de gouttière étaient bruns tigrés. Est-ce que Nakata peut vous appeler Kawamura ? Nakata répète la question qu'il vient de poser au chat tigré en détachant les mots de manière à bien se faire comprendre. Ce matou venait de lui dire qu'il avait dans les environs aperçu la chatte qu'il recherchait. Cependant, ils s'exprimaient d'une façon curieuse et leur conversation confinait à l'absurde. « Cela ne me dérange pas, mais la tête haute. »« Excusez-moi, Nakata ne comprend pas bien ce que vous dites. »« Toujours du maquereau ? » ?»« Vous vouliez dire que vous aimeriez manger du maquereau ? » ?»« Pas du tout. Les pattes avant attachées ?»
Voilà, c'est ça le monde de Murakami. Et je ne vous ai pas tout dit de Nakata, car non seulement il parle chat, mais il a aussi le pouvoir de faire pleuvoir des poissons quand on l'embête. Et boum, un nuage de sardines ou de maquereaux qui vous tombe sur la tête. Un monde de poésie, de rêves, très attachant. Et d'ailleurs, je crois, Charlie, que Kafka sur le rivage, c'est un bouquin qui t'a marqué.
C'était justement le livre que j'avais choisi de parler aujourd'hui. Donc, tu as un petit peu tout résumé. Donc, en fait, Nakata, qu'on pourrait décrire comme un vieil homme un peu simple d'esprit, mais pas que, qui rencontre eh bien, le héros, Kafka. Lui, il fuit sa maison pour échapper à une terrible prophétie de son père. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est un roman d'initiation, beaucoup d'imagination, de profondeur, un roman d'apprentissage, une véritable odyssée. On rencontre, comme tu l'as dit, des hommes, des chats, des poissons qui tombent du ciel et une quête initiatique pour découvrir, au fond, leur propre vérité.
Ouais, Nakata, c'est ça. C'est ça l'univers. Mais, alors Murakami, il écrit aussi un peu dans le fantastique, mais il sait aussi écrire dans le réel. Et ainsi, quand il parle du réel, il dresse des portraits au scalpel de son pays. Prenez Après le tremblement de terre. Ça, c'est le titre du livre, Après le tremblement de terre. En référence au séisme qui a frappé Kobe en 95. Des secousses qui ébranlent jusqu'au tréfonds des habitants. La preuve, le tout début du livre.
Elle avait passé 5 journées entières devant le poste de télévision, contemplant en silence les paysages dévastés, autoroutes et voies de chemin de fer coupées, banques et hôpitaux en ruine, rues commerçantes ravagées par les incendies. Profondément enfoncée dans le canapé, lèvres serrées, elle ne réagissait pas quand Komura lui parlait, ne secouant même pas la tête pour acquiescer ou répondre non. Il ne savait pas si elle entendait sa voix ou non. La femme de Komura n'avait aucun parent ou ami dans la région de Kobe. Elle restait pourtant collée du matin au soir devant la télévision. Elle ne buvait pas, ne mangeait pas, elle n'allait même pas aux toilettes. Quand Komura allait se coucher, elle était toujours là, devant l'écran, entourée d'un mur épais de silence. Komura avait fini par renoncer à lui adresser la parole. Le 5e jour, c'était un dimanche, quand il rentra du travail à la même heure que d'habitude, sa femme avait disparu.
Voilà pour un tout petit survol de l'œuvre de Murakami. Génial et humaniste, poète et rêveur, écrivain prolifique et discret, peu de photos, je vous le disais, pas ou très peu d'interviews, hormis celle-ci, où le romancier en reste à quelques généralités, comme s'il avait peur de trop en dire sur lui-même, comme si cela n'était pas important du tout, comme si, en fait, tout était dit dans ses livres. Une interview qui date de 2011.
I don't have any sisters and brothers.
Je n'ai eu ni sœur ni frère, tout seul à la maison.
I have three things to help me.
Aussi, j'ai trois choses qui m'ont aidé. Les chats, les livres et la musique.
So now, still now, music helps me.
Aujourd'hui encore, la musique m'aide à écrire.
To write is a very, it's a very solitude, you know.
Écrire est un travail solitaire.
When you're writing, so I need some things to help me to keep on.
J'ai besoin de choses pour écrire.
So music is one of them.
La musique est cela.
I love any kind of music, jazz or. Rock contemporary music or a classical music, any good music.
J'aime toutes sortes de musique, jazz, musique contemporaine, musique classique, toutes sortes de musique.
Because I concentrate on writing.
Mais je n'écoute pas de musique quand j'écris, trop concentré.
When I'm not writing, I'm listening to so many kind of music.
Mais quand je lis, j'écoute de la musique. Vous retrouverez toute la bibliographie de Murakami sur le site de l'émission sur Radio Marseillette. Voilà pour cet univers vraiment génial. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller. Parce que Murakami, vous y rentrez et vous en sortez à peine, ou alors très 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 longtemps après. Le bloc-notes, l'agenda, l'histoire de bien démarrer l'année, Françoise ?
Alors, à Carcassonne, au centre Joué Bousquet.
Eh bien, toujours l'expo et les rencontres autour de Michel Buteur, avec une rencontre avec Michel Buteur le 6 février, des gravures, des poésies, des textes et des rencontres, à ne pas rater, c'est rue de Verdun, et l'occasion de visiter vraiment la maison d'un grand poète d'ici.
À Montpellier, un festival pas comme les autres, Art Oral, du 14 au 22 janvier.
Ben là encore, des rencontres, des lectures, des concerts, ou à partir d'écritures contemporaines, l'occasion de découvrir ou d'écouter des auteurs ou des poètes d'aujourd'hui qui écrivent sur le présent et font du quotidien un formidable champ d'exploitation littéraire.
Enfin, une belle initiative. Son titre résume tout. Bienvenue.
Un recueil de textes, de témoignages, de dessins avec plus de 30 auteurs mobilisés autour de la question des réfugiés. C'est aux éditions Point. On y retrouve Tahar Benjelloun, Olivia Adam, Mathias Sénard, Laurent Godet, Alain Maboncou, Valérie Zenetti, Marie Dariussec. Et le produit des ventes de ce recueil sera intégralement versé au Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Bienvenue, un joli mot un peu trop oublié en ce moment. Et puis, au côté comptoir des lecteurs, un titre, Charlie, à part Kafka sur le rivage, une BD peut-être.
Une BD de Bill Watterson, Calvin et Hobbes. Lui, c'est un dessinateur de bande dessinée américaine. Il est connu pour des séries humoristiques, Calvin et Hobbes, du type comic strip. Tu vois, c'est-à-dire une ligne avec 4-5 images qui finissent par un gag, publié dans les journaux américains. Alors, c'est une BD qui raconte la vie quotidienne et mouvementée d'un petit garçon de 6 ans, Calvin, un enfant plutôt solitaire, très imaginatif. Il est accompagné de son meilleur ami, qui est un tigre en peluche. Son nom est Hobbes. Alors, bien entendu, Hobbes n'est qu'une banale peluche aux yeux de tous, mais certainement pas pour Calvin, qui le considère comme un véritable tigre, un vrai félin, un tigre qui a un ton un peu sarcastique, et c'est un comique qui vient très souvent de la différence de vision entre Calvin et Hobbes, bien entendu beaucoup d'humour, et c'est une critique sociale, politique de la société américaine. C'est chez Hors Collection, il y a 21 albums, je vous le conseille.
Allez, les États-Unis pour les BD, pour les strips. Et puis retour au Japon pour un bouquin que tu as aimé, Françoise.
Voilà, pour un bouquin qui n'est pas un dictionnaire. On en avait parlé la dernière fois et je vous en réserve quelques-uns pour les prochains bistrots. Pas un dictionnaire, mais un livre qui s'est formulé sous forme d'abécédaire. Alors je l'ai acheté pour son titre. Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas de je t'aime. C'est par Elena Janvier. J'ai acheté pour son titre et j'ai découvert à l'intérieur un abécédaire sur la civilisation japonaise et toutes ses différences avec celle de la France. Donc, par exemple, je vais vous dire apparence. Au Japon, la fin du fin n'est pas de soigner les apparences, mais ce qui n'apparaît pas. Un kimono sobre, voire insignifiant, doublé d'une soie rare. Ou Z, comme zapping. Quand on zappe sur les chaînes japonaises, il y a toujours une femme qui pleure, un homme qui mange et quelqu'un qui lui pose une question.
Voilà, et puis aussi, on rentre dans la période de la commémoration des attentats contre Charlie Hebdo. Et il y a un bouquin qui vient de paraître. En fait, un bouquin qui répond à une injonction de Rhys, qui était au lendemain des attentats, à propos de « Je suis Charlie, je suis Charlie ». Rhys avait dit « Vous êtes Charlie ? Eh bien, prouvez-le, dessinez ». Et il y a un bouquin qui vient de sortir.
Oui, ça c'est bon. Donc, la rédaction de Charlie, après la tuerie du 7 janvier dernier, a reçu environ 10 000 dessins envoyés par les jeunes pour exprimer soutien, chagrin, colère et leur attachement aussi à la liberté d'expression. Et les journalistes de Charlie en ont sélectionné 150. Ils sont réunis dans un ouvrage qui s'appelle « Je dessine », édité par Les Échappés, qui est la maison d'édition de Charlie. Les textes, c'est accompagné de textes de Boris Cyrulnik, donc 136 pages, 19,90 €, et une belle façon de faire un hommage à ce drôle de 7 janvier qui n'est pas drôle du tout.
Oui, et à 7 janvier qui avait posé question jusqu'où peut-on aller trop loin. Eh bien, pour comprendre un petit peu le phénomène Charlie Hebdo, moi je vous conseille un autre livre. Il faut revenir aux origines, et les origines vous les trouverez dans un livre de photos et de textes que l'on doit à Arnaud Baumann et Xavier Lambourse. Ça s'appelle « Dans le ventre de Harakiri ». Ces deux gamins, ils étaient tout jeunes à l'époque, qui en 73 se sont pointés à Harakiri et ont dit « Voilà, on voudrait suivre votre travail en photo ». D'abord, ils se sont fait jeter, mais comme ils ont insisté, toute l'équipe de Harakiri, qui après est devenue Charlie Hebdo, non seulement les a acceptés, mais après les a adoptés. Et là, vous avez toute l'épopée de cet humour féroce des années 70, où on pouvait tout se permettre, un peu à l'image de Desproges ou de Coluche, où l'humour était accepté, où on pouvait se moquer des pauvres comme des juifs, et il n'y avait pas le politiquement correct qui sévit aujourd'hui. Donc si vous voulez comprendre un petit peu le phénomène Charlie Hebdo et les polémiques que ça suscite aujourd'hui encore, moi je vous conseille, dans le ventre de Harakiri, vous comprendrez bien d'où l'humour vient de ces garçons et de ces filles-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
Françoise Henry, merci. C'était le Bistrot du Livre, une émission proposée par Cépage d'Encre. À bientôt.
À bientôt. À bientôt.